السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et mes chères sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité en ce jeudi soir de nous réunir dans une de ses maisons pour un événement extrêmement important. Un événement extrêmement important d'une manière générale dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et d'autant plus quand cela concerne un musulman et une musulmane, cet événement a un sens encore plus profond. Car au-delà de la notion de bonheur qu'il y a à travers le mariage, à travers l'union de deux amoureux, il y a la construction de la deuxième moitié de la foi. C'est pour ça que c'est un événement important, tant pour un être humain, toute confession confondue, mais quand cela concerne un musulman et une musulmane, au-delà du côté festif, au-delà du côté émotionnel, voire amoureux, parce qu'il y a le sentiment amoureux aussi, il y a la construction de la deuxième partie de la foi. Et ça, c'est un événement extrêmement important. Vous savez, mes chers frères et sœurs en islam, que le nikah, le mariage, est une tradition qu'Allah Azza wa Jal a accordée à la totalité des anbiya, alayhim salat wa salam. En venant donc au tampon, j'étais avec un jeune dans la voiture, on ne dira pas le nom, dont on discutait, et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui conçoivent une vie professionnelle sans mariage. Et là, j'ai fait le rappel à ce jeune qu'il ne faut pas oublier que c'est une sunna et que dans certains contextes, dans certains milieux, dans certaines sociétés où l'adultère devient abondant, où l'adultère devient quelque chose de banal, le nikah peut parfois même devenir wajib, peut devenir presque obligatoire. On ne peut concevoir une vie épanouie tant sur le plan sentimental que sur le plan spirituel et religieux sans qu'il n'y ait l'union entre deux personnes. Et c'était donc la sunna de tous les anbiya, tous les prophètes qui sont venus sur terre, à l'exception d'un seul prophète, qui est donc Isa alayhi salam, qui ne s'était pas marié, mais qui, selon les savants, à la fin des temps, c'est notre sujet, lorsqu'il reviendra, le retour de Jésus, de Isa alayhi salam, à la fin des temps, Isa alayhi salam, lui aussi se mariera, et là, il mourra, et avec donc... en étant un homme qui a connu cette sunna, cette tradition de tous les anbiya, alayhi salat wa salam. Alors très souvent dans la société, nous percevons le nikah, le mariage, comme la concrétisation de l'amour entre deux personnes. Le mariage, certainement, c'est l'union des amoureux, c'est le cas. Parce qu'on a dit que dans le qui dit mariage, dit sentiment, dit passion, dit amour. Il le faut. Mais au-delà, comme on l'a dit, de ce côté sentimental, il y a avant tout la mise en pratique d'une sunna et la construction de l'autre moitié du iman, de l'autre moitié de la foi. Alors on a grand espoir qu'après cette cérémonie de nikah, Richard hein, et sa future épouse, Zihan qu'elle s'appelle, hein, ils auront, Inch'Allah, en plus du grand chemin qu'ils ont déjà fait pour construire la première moitié de leur foi, Inch'Allah, cette deuxième moitié leur sera accordée immédiatement lorsque l'imam célébrera, Inch'Allah, ce nikah. C'est un iman, Inch'Allah, qui va augmenter durant toute leur vie. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, à notre époque, au 21e siècle, à l'île de la Réunion avec la culture européenne, la culture occidentale, la culture, on parle même plus de culture, on parle de mondialisation, d'accord? Dans ce contexte, hein, le mariage entre deux personnes, deux jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement valeureux. C'est un signe de présence de l'iman. Quand on se marie, ce n'est pas uniquement qu'on est amoureux. Quand on se marie, c'est qu'on a la foi en Allah. Quand on se marie, c'est qu'on a la crainte d'Allah dans notre cœur. Analysez le mode de vie des gens de la société. Le concubinage de nos jours a remplacé les mariages. Il y a plus de 60% de naissances qui ont eu lieu sans qu'il y ait de réel lien de mariage, toute confession confondue. Il est tellement plus facile de vivre avec un concubin, avec une concubine pendant un an, deux ans, trois ans, voire même faire une vie, et le jour où ça ne marche pas, on se sépare à l'amiable, sans qu'il y ait de tralali, tralala, il n'y a pas eu de belle-mère, il n'y a pas eu de beau-père, il n'y a pas eu d'héritage, vraiment. C'est-à-dire qu'on s'en sort assez facilement. Ce mode de vie, et le mode de vie de deux personnes qui se sont mariées avec les liens sacrés du Nikah, ben, en apparence, c'est pareil. Il y a le monsieur, il y a la madame, ils vont manger pizza le samedi soir, ils vont la plaine, ils vont pique-niquer le dimanche, et alhamdulillah, ils ont des enfants. Mais avec, dans une maison, il n'y a pas le lien du Nikah, il n'y a aucune baraka possible. Et chaque seconde passée, c'est une seconde passée dans l'adultère de le haram. Tandis que dans l'autre foyer voisin, il y a l'union sacrée du mariage qui apporte baraka, qui apporte bénédiction, et qui va emmener le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans une société comme la nôtre, très souvent, nous voyons que même parmi nos co-religionnaires, parmi les musulmans, parmi certaines personnes, il y en a qui vont jusqu'à dire que vivre en concubinage n'est pas un péché. Parce que nous avons analysé le péché par rapport à notre logique, notre conception des choses. C'est-à-dire que quand j'aime une fille, quand j'embrasse ma copine, ma fiancée, ma tantine, peu importe comment on va l'appeler, je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, je n'ai opprimé personne. Ce n'est que de l'amour qu'on échange. Alors on va aller jusqu'à dire Dieu est amour et moi je donne de l'amour, elle me donne de l'amour et donc nous construisons de l'amour. Dites-moi où est le péché? Alors si c'était moi qui jugeais qui entrait dans le paradis, qui entre dans l'enfer, et qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui est bonne action, là j'aurais pu dire qu'effectivement ce n'est que de l'amour, il n'y a pas la notion de péché. Mais la notion de péché, les limites du péché, ce n'est pas moi qui fixe, ce n'est pas l'être humain qui fixe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fixe. Donc quand on voit des jeunes qui se marient, on se doit de les féliciter. Féliciter, tu as marié bien sûr, pour le désir de se conformer aux ordres d'Allah et de vivre donc de la légalité, de le lien du Nikah, également pour leur application de cette sunnah merveilleuse qui n'est pas la plus dure à mettre en pratique certainement, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les anbiya alayhi salatu wa sallam. Mais félicitations également pour les parents, le papa et la maman du marié et le papa et la maman de la fille également. Félicitations également pour les parents parce que c'est le résultat du souci qu'il se faisait pour cet enfant depuis qu'il est tout petit. Parce que quand on a un enfant, il y a première phase où l'enfant est bébé, il va grandir, il va devenir, il aura 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis à l'adolescence, il va grandir, etc. Il va passer son permis, il va passer son bac, les différentes étapes de la vie que tout le monde connaît, toutes confessions confondues. Et n'importe quel parent aimerait voir un jour leurs enfants heureux et épanouis. Et quand on parle d'épanouissement, cela ne peut passer que par une vie professionnelle, épanouie avec une situation, bien sûr, mais également une vie familiale. Parce qu'il n'y a pas de réel bonheur en butinant de fleur en fleur. Parce qu'on a l'impression que les gens qui butinent, ils connaissent le bonheur, mais ce n'est pas un bonheur réel. Le réel bonheur, la réelle baraka, la réelle bénédiction, la quiétude des cœurs ne peut se trouver que dans une union qui a été faite selon les ordres d'Allah, c'est-à-dire par les liens sacrés du Nikah. Et vous savez, également, quand c'est, et là on va parler plutôt des parents de la fille, quand c'est une fille qui se marie, vous savez, lorsque notre prophète a dit qu'un père à qui Allah azzawajal a donné deux filles et qui assure une bonne éducation à ces deux filles, ne seront proches en montrant ses deux doigts, ne seront proches comme ça le jour de Qiyamah, c'est-à-dire il accédera avec le prophète, inshallah, dans le paradis. Et en commentaire, les ulama disent que c'est ce papa qui s'est fait du souci pour sa fille, qui a donné une éducation correcte à sa fille, que sa fille est devenue une croyante, une bonne musulmane, jusqu'à l'étape où ce père a trouvé un bon mari pour sa fille, et qu'il a donné la main de sa fille à ce bon garçon religieux qui a toutes les qualités qu'il faut, et à ce moment-là, la mission du père s'arrête. À partir de ce moment-là, c'est comme si qu'on passe le relais, maintenant la fille, elle va être plutôt proche de son mari, et le père passera, on pourrait dire, en second plan. Mais la mission du papa s'arrêtera à partir du moment où il aura confié en amana, en dépôt, sa fille à un enfant, un homme, un jeune homme, vieux, qui a toutes les qualités qu'il faut. Donc les ulama disent que ce père qui peut marier ses deux filles avec des gens bien, alors Inch'Allah, c'est un papa qui aura donné une bonne éducation. On a grand espoir que ce père sera avec le prophète, comme il l'a promis dans le hadith qu'on a cité. Et le mariage se repose essentiellement sur deux piliers. Il y a tout d'abord l'amour de le couple, et il y a deuxièmement la pratique de la religion. Il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas d'épanouissement dans la vie conjugale si on met en avant un des deux piliers en négligeant le prochain. C'est-à-dire qu'on ne peut connaître des jours heureux uniquement avec de l'amour. De la même manière, on ne peut connaître une vie heureuse uniquement dans la pratique de la religion si le mari et la femme ne s'entendent pas. S'il n'y a pas de relation affectueuse, sentimentale, voire même amoureuse entre l'époux et l'épouse, même si on est de grands adorateurs d'Allah, même si le mari se lève tous les soirs ainsi que l'épouse, pour faire tahajjud de 3 heures du matin jusqu'à Fajr, et ils font carême le lundi, le jeudi, mais s'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment amoureux, le couple ne sera jamais un couple épanoui, même s'il y a la pratique de la religion. Donc les deux piliers sont extrêmement importants pour la stabilité. Et si un des deux piliers vient à manquer, il y a un déséquilibre total dans le couple et il n'y aura jamais de réel épanouissement. Alors lorsqu'on parle d'amour, 30 minutes parce qu'il faut bien qu'il se marie, on en est à 10 minutes. On est dans un bail à l'échelle. À moins que tu nous autorises, on peut faire une autre demi, et on reproche le niqab demain. C'est une possibilité, hein. C'est toi qui décides, d'accord. Nous on est là, on a fait le déplacement, donc on est alhamdoulilah. Donc, la notion d'attirance entre l'homme et la femme, ce n'est pas une faiblesse, ça. Hein, qu'on est petit, ah, il est amoureux, l'autre, il est amoureuse. Souvent, quand on est petit dans la première phase, hein, 8 ans, 9 ans, quand quelqu'un est amoureux, il a l'impression que c'est une faiblesse. Hein, je ne suis pas assez fort, hein, je n'ai pas développé les qualités du mâle dominateur qui fait que je flanche et je tombe amoureux d'une fille. Mais non, l'attirance mutuelle qu'il y a entre garçons et filles, entre hommes et femmes, fait partie de la fitra. On appelle ça de l'inéité. Parce qu'à la date du Coran, Zuhina linnas hukm ash-shahawati min an-nisa. Donc parmi les choses qu'Allah a rendu attirant pour l'homme, pour la race humaine, entre autres, il y a donc cette attirance mutuelle qu'il y a entre un homme et une femme. C'est pour ça que les sociétés, voire les religions, voire les sectes, qui ont décidé que certaines personnes, pour se rapprocher de Dieu, doivent totalement s'isoler, ignorer les relations conjugales, on pourrait même dire les relations intimes entre l'homme et la femme, et ils vont à l'encontre de la nature humaine. Et quand on va à l'encontre de la nature humaine, on ne connaît pas d'épanouissement. Et puis il y a des dérives. Allah Azza wa Jalla nous a créé de la sorte que l'homme et la femme soient attirés mutuellement. Il vaut mieux être attiré par une femme qu'un homme attiré par un homme. Donc là ça prouve qu'on est normal, alhamdoulilah. Et quand c'est le cas, il faut, quand les sentiments sont sérieux, on ne parle pas d'amourette, de code récréation, quand les sentiments sont sérieux et que les conditions du nikah sont réunies, alors là, il ne faut pas hésiter, avec l'accord des deux familles, à faire le premier pas, faire le istikhara, consulter les anciens, les grands-parents, les deux familles, faire les mashwira, et se lancer dans le nikah. Et malheureusement, hein, vous constatez, hein, on n'est pas pessimiste, hein, il ne faut pas dire que les moussas voient le mal partout, mais c'est un constat réel. Si on analyse le nombre de couples qui ont tenu à l'époque de nos dadas, de nos nannies, de nos grands-parents, et le nombre de couples qui tiennent à notre époque, ben, il n'y a pas photo, malheureusement. Malheureusement, le nombre de couples, hein, qui tiennent vraiment à notre époque, on en voit beaucoup, on va en voir ce soir, Inch'Allah, mais d'une manière générale, on constate énormément de talents à notre époque. Et pourquoi ça? La raison, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être psychologue, psychiatre, pédopsychiatre ou psychopathe pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de divorces dans la société. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a compris l'amour par le biais de la conception de l'amour de l'Occident. Et quand on dit Occident, c'est la mondialisation. Il y a une notion mondialisée de l'amour qui est pénétrée dans les cœurs, et cette notion de l'amour se résume à la contemplation de la beauté. De nos jours, on va aimer une femme parce qu'elle est belle, et la femme aimera son mari parce qu'elle trouvera son mari beau et séduisant. Le problème vient de là. Si notre conception de l'amour se limite à la contemplation de la beauté physique du conjoint, alors ce sentiment risque de ne pas durer. Parce que la beauté n'est pas éternelle. Quand quelqu'un se marie à 20 ou 25 ans avec son beau kurta comme ça, magnifique, et que la même personne, lui, restera beau, ça c'est clair, d'accord. Mais dans d'autres cas où la femme prend un peu d'âge, il y a un peu de riz, il y a un peu de cerne, bon, on va acheter des conteneurs de Clarins ou de je ne sais pas quel produit pour essayer de gommer ça, parfois même on met du plâtre ou je ne sais pas quel enduit pour pomper les riz. Mais à un moment donné, si ce n'est pas sur le plan physique qu'on voit une certaine décadence, c'est par rapport au caractère même des conjoints. Quand on a 70 ans, on n'est pas aussi frais physiquement et psychologiquement, on n'a pas les mêmes réactions que quand on a 20 et 25 ans. Donc si on construit notre conception de l'amour uniquement sur la contemplation de l'autre,
alors ce n'est pas un amour, un muhabba qui risque de durer. Et vous savez, cette conception de l'amour, elle vient d'où? Elle vient des romans de Lodros, elle vient directement des films indiens, des Loft ou des Secret Story, ou alors je ne sais quelle story. C'est exactement la conception de l'amour que nos jeunes générations sont en train d'imbiber. Leur cœur est imbibé de cette conception de l'amour. Il faut que je me marie avec un homme qui est très beau et très séduisant. Il faut que c'est comme Brad Pitt, ou alors il faut comme c'est le gars qui boit du café, que la tête, la figure ne change pas. Là. Comment il s'appelle, je ne sais pas, Clooney, je ne sais quoi. D'accord? Il faut que le mari soit exactement comme ça. Là, ça veut dire que je vais connaître une vie heureuse. Et du côté de l'homme, je ne vais pas citer le nom des madames, ça ne passe pas. D'accord? Du côté de l'homme, c'est pareil. Il faut que ma femme obéisse vraiment à ce genre de mensuration. Vous voyez, il y a plein de pubs en ce moment, des 95 B et C, 100 euros, ils en voient ça. Donc, il faut absolument que ma femme soit comme ça, avec un teint comme ça, les cheveux comme ça, pour qu'elle soit une bonne épouse. Et si elle ne remplit pas tes conditions, alors je ne vais pas être heureux. Et ça, c'est le grand blocage. Parce que la beauté, comme on dit, n'est pas éternelle. Maintenant, si j'ai compris c'est quoi le réel amour de l'islam comme l'islam nous enseignait et comme nos grands-parents eux-mêmes, hein, ils avaient compris, alors réellement on comprendra que dans l'islam il y a deux piliers de l'amour. Il y a la mawadda. La mawadda c'est l'amour, hein, comme on le comprend dans le sens propre. Et il y a la rahma. Ces deux termes reviennent dans un verset du Coran, le mawadda et le rahma. Et la rahma, c'est une notion que l'Occident a oubliée. Ou alors ils n'ont pas compris. C'est la miséricorde, c'est la compassion qu'il y aura entre les deux êtres. Le souci permanent que l'homme aura pour son épouse, que mon épouse se porte bien. Et le souci permanent que la femme aura pour son mari, que mon mari se sente bien dans son foyer, dans sa maison. Et ça, c'est le réel muhabbat. Et cet amour-là, on le voyait dans l'union, dans le mariage du prophète Mohammed Mustafa, alayhi salatu wa salam. Un exemple, lorsque notre prophète a connu l'embargo. A connu l'embargo, pendant plus d'un an, notre prophète était isolé, il devait rester dans un endroit éloigné, il n'avait plus rien à manger. Il y avait son épouse Khadija, qui elle, par rapport à sa lignée, n'était pas concernée par l'embargo. Mais par amour pour son mari, elle a décidé de suivre son mari, de rester avec lui et de vivre les mêmes difficultés. Et le ulama, rahimahullah, disent que les sahaba, ils ont connu de telles difficultés dans cet embargo qu'ils étaient arrivés à manger des feuilles d'arbre, ils n'avaient plus rien à manger. Et cet ulama disent que c'est à l'issue de cet embargo que Khadija, radhiyallahu anha, est décédée. C'est-à-dire qu'elle a suivi son mari jusqu'à dans les moments les plus durs. Et quand on entendait, on l'a dit tout à l'heure, et c'est ce qu'on entend dans les films, se marier pour le meilleur et pour le pire. Mais ça, c'est que dans les films, ça. Dans la vie réelle, on se marie pour le meilleur. Quand on sent le roussi, quand le pire commence à pointer du nez, alors on s'en va immédiatement. Ça, c'est la réalité de notre société. Parce que c'est un amour qui n'a pas rempli les deux conditions. Mawadda et Rahman, on s'est contenté juste de l'amour, proprement dit, sans qu'il y ait la Rahma de le couple. Et cette Rahma nous a été enseignée par le prophète, mise en pratique, cette Rahma a été mise à l'épreuve dans cette histoire de l'embargo, dans beaucoup d'autres histoires. Regardez, lorsque on va entrer dans les détails, dans les histoires, lorsque le prophète va mourir, est-ce qu'il meurt auprès d'Abu Bakr, de Umar, de Othman, de Ali? Est-ce qu'il meurt l'épée à la main? Est-ce qu'il meurt avec le asa? Je le tiens asa à point. Est-ce qu'il meurt avec un asa sur le mimbar en faisant une prêche et il meurt? Est-ce qu'il meurt en invitant de grandes tribus vers l'islam? Non. Notre prophète wassalam, meurt alors que sa tête Mubarak est posée sur les jambes de Aïcha, radiallahu anha. Le prophète meurt auprès de son épouse, dans la maison de son épouse, où il a demandé, j'aimerais rester là, jusqu'à ce que Malek al-Maud reprenne mon âme. Et c'est énorme ça. C'est plus fort que Roméo et Juliette, n'importe quel misal qu'on peut donner en termes d'amour, de roman, de drogue ou d'affection, que le prophète Aïcha, quitte ce dunya, et tellement il aimait son épouse Aïcha, qu'il a voulu mourir auprès d'elle, et il est mort avec sa tête baignée, posée sur la cuisse de Aïcha, radiallahu anha. Et le summum, c'est en train de définir, c'est quoi l'amour? Le summum de cet amour, c'est quoi? C'est lorsque le mari regarde sa femme, quel que soit son âge. Je ne parle pas lors de la nuit de noces, parce que les noces, on ne regarde pas trop, on a d'autres choses à faire. Quel que soit son âge, même si c'est un couple qui a 50 ans de mariage, voire 60 ans de mariage, quand ce monsieur, ce mari regarde sa femme, cela lui procure un plaisir de son cœur. Et que la femme voit son mari, même son mari est 70 ans, 80 ans, il est âgé, il est vieux, il est peut-être malade, cette femme ressent encore beaucoup d'amour pour son mari. Ça, c'est énorme, ça. Parce que le prophète dit que il nazara ilayha sarratu rawa muslim. Quand une femme merveilleuse, c'est quoi? C'est une femme lorsque le mari donc regarde sa femme, sarratu, il y a la joie qui rentre dans son cœur. C'est parce que c'est un amour sincère. C'est pas un amour éphémère, c'est pas un amour qui est basé sur la contemplation, mais les cœurs sont réellement unis. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, l'aboutissement de cet amour, c'est quoi? C'est que ces conjoints, en permanence dans leur vie, ils vont rechercher le contentement d'Allah, azzawajal, par le biais du ibad. Ça, c'est un couple qui va voir leur amour aboutir. Aboutir jusqu'à arriver à la consécration. La consécration de l'amour, l'objectif final, c'est quoi? C'est lorsque Allah Ta'ala dit le Coran, Jannatu adni yadkhulunaha, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Lorsque Allah Ta'ala décrit les gens qui vont entrer dans le paradis et que le mari retrouve son épouse dans le paradis. Ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est l'objectif du mariage. Que les deux conjoints ont vécu ensemble, en se respectant mutuellement, en respectant les ordres d'Allah, en se conformant à la sunna du prophète, jusqu'à mourir ensemble avec la foi, et qu'ils se retrouvent ensemble pour une vie éternelle dans le paradis. Il n'y a pas plus grand objectif qu'à travers un mariage que de se retrouver ensemble pour une vie de bonheur dans le Jannah, dans le paradis. Et cet amour que l'islam nous enseigne, qui est basé sur l'amour du prochain par rapport à sa beauté physique, mais également la rahma, la bonté des cœurs, l'union des cœurs, la sincérité dans les sentiments, cet amour-là, il résistera à n'importe quel climat. Qu'il fasse beau, qu'il y ait tempête, tsunami, quelles que soient les difficultés, c'est un amour qui restera ferme, inshallah, et solide jusqu'à la fin. Je vous donnerai un exemple. Un exemple, regardez lorsque le prophète, il reçoit la première révélation. Qui est-ce qu'il va voir en premier? Il va voir immédiatement Khadija, radiallahu anha. Il n'est pas allé voir Abu Bakr ou d'autres personnes qui étaient proches de lui, qui ne s'étaient pas encore convertis, mais qui faisaient partie de ses amis. Il va voir immédiatement son épouse. Également, après le pacte de Hudaybiya, lorsque le prophète, il explique aux sahaba qu'on ne peut pas accéder à Mecca. On ne peut pas entrer à Makkah, mais on reviendra l'année prochaine. Et donc, il faut couper l'animal quand même et se raser la tête. Les sahabas ne comprennent pas. Et les sahabas n'ont pas obéi au prophète cette fois-ci. Le prophète est un peu désemparé. Et qui est-ce qu'il va voir? Une de ses épouses, dont j'ai oublié le nom. Et là, Umme Salma, radiallahu anha, barakallahu fi. Et Umme Salma dit au prophète d'Allah, fais le sacrifice devant les sahabas. Et ils vont obéir. Et le prophète a fait, et les sahabas, ils sont bien sûr le prophète. Donc, un mari doit trouver auprès de son épouse une épaule sur laquelle se reposer. De la même manière, l'épouse doit trouver auprès de son mari une épaule sur laquelle se reposer. Ça, c'est le véritable amour. Et pour arriver à ce degré de mahabba, comme il y avait entre le prophète et ses épouses, il y a un travail de fond à faire. Et il y a une relation à construire pierre par pierre. Vous savez, c'est un amour qui est basé que sur un coup de foudre. Très, très souvent, ça ne tient pas. C'est basé sur un coup de foudre. Souvent, c'est un amour éclair et qui va durer quelque temps et qui va se dissiper. Donc, il y a des bases à amener, un travail de fond à faire et avec cela, un désir permanent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on en est à 23 minutes. On dit 30. Donc, on a encore 7 minutes. Allez, votre accord. D'accord. En 7 minutes, on aurait souhaité développer 5 recettes magiques pour que l'amour reste que pour l'amour perdure, pardon, dans le couple jusqu'à la mort. Mais sur ces 5, on n'en citera que 2. Et il y en a d'autres, le jeune marié Omar qui se marie après son hadithi. Donc, écoute bien, tu oreilles, écoute bien, cela te sera, Inch'Allah, profitable. Alors, une des conditions pour qu'il y ait une ambiance saine et qu'il y ait un respect mutuel entre l'homme et la femme de manière permanente dans l'union, que ce soit le premier jour, la première année, les 10 premières années, ou même après 30 années de mariage, ce qui est extrêmement important, c'est que l'homme respecte la personnalité de sa femme. Et que la femme respecte la personnalité de son mari. Très souvent, dans les traditions indiennes dont nous sommes des héritiers, ou alors même si on a des origines, des racines un peu arabes, il y a un héritage culturel un peu lourd qui fait qu'en général, le mari, il est un peu macho, il est un peu sexiste, le mâle dominant. C'est le monsieur qui crie dans la maison, c'est l'homme qui dicte et la femme en général elle se soumet et elle n'a pas son mot à dire. Ce n'est pas la conception de la relation homme-femme de l'islam. Parce que sous le toit de la maison de notre prophète alayhi salatu wassalam, les choses ne se passaient pas comme ça. Si on a eu cet héritage culturel, il faut faire le maximum pour s'en débarrasser. On prend ce qu'il y a de bien de notre culture, mais ce qui va à l'encontre de la sunna, on doit absolument laisser place à la sunna prophétique. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est arriver à une situation où le mari a un comportement dominant dans le couple. Alors, il faut trouver le juste milieu. Le mari ne doit pas être sexiste, comme on a dit, ni macho, hein, comme beaucoup de musulmans y sont dans nos relations, malheureusement, parce que sinon, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir? Il risque d'y avoir un traumatisme chez cette jeune femme qui commence à vivre ses premiers jours avec ce monsieur. Si dès le départ, le mari se montre intransigeant, il a des habitudes, il a un mode de vie, et que tu comprennes bien que c'est moi qui commande, et que c'est moi qui tiens les baguettes, qui prends les décisions, il risque d'y avoir un traumatisme hein, qui va perdurer dans le cœur de cette femme. Donc, il ne faut pas cette attitude. L'autre extrême aussi, il faut éviter. Il ne faut pas que l'homme soit soumis à sa femme. Il ne faut pas que l'homme hein, n'arrive pas à gérer les situations, parce que très souvent, on a vu des couples hein, qui ne tiennent pas, parce que dans les moments difficiles, le mari il ne tient pas. Le mari ne tient pas le coup, ne supporte pas la pression, et il se dégage de ses responsabilités, il laisse sa femme gérer les conflits, et après, très souvent, la femme, elle se dit que déjà, c'est moi qui mets tout dans la maison, et si en plus, c'est moi qui dois gérer les problèmes. Donc, le mari ne doit pas y aller trop fort, et le mari ne doit pas non plus montrer des signes de faiblesse. Parce que sinon, dans les deux cas, il risque d'y avoir un déséquilibre. Maintenant, du côté de la femme ne doit pas être ultra féministe. À tel point qu'elle dit, moi je ne m'acquitte d'aucune tâche domestique, moi je ne cuisine pas, je ne fais pas, etc., etc. Ça c'est un extrême à éviter. Mais dans l'autre cas aussi, la femme ne doit pas avoir un comportement, une personnalité totalement effacée. C'est pas que je suis une femme, la femme, elle se dit que pour que mon mari soit satisfait de moi, je dois me montrer totalement soumise à lui. Être obéissante, être correcte dans les relations, c'est un point. Mais pour autant, la femme ne doit pas effacer sa personnalité face au mari. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura un discours unique et le mari ne trouvera pas de retour. Et c'est par le respect mutuel, le respect des idées des deux conjoints, que chacun pourra apporter un peu de leur personnalité, un peu de leur éducation, un peu de leur potentiel pour qu'il y ait une fusion. Il y ait une fusion entre les deux personnalités, entre les deux caractères, plutôt qu'il y ait l'effacement d'une des deux personnes ou qu'il y ait au pire un affrontement. Et dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, vous savez, la vie de notre prophète, c'est énorme, c'est riche en leçons. Dans l'exemple précis, pour parler d'autre chose, lorsque le prophète va voir Khadija, après la première révélation, il dit, oh Khadija, hein, j'ai vu un être apparaître devant moi avec une telle forme qui m'a dit telle parole. Il parlait de qui? De Jibril alayhi salam, de Gabriel, donc qui avait amené la première révélation, le surat Iqra. Et là, le prophète avait peur qu'il lui arrive quelque chose, il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Khadija, radiallahu anha, elle va trouver les mots justes. Elle aura la force de caractère, elle aura la force psychologique pour soutenir son mari et lui apporter la confiance dont il avait besoin à ce moment précis. Le prophète avait besoin de soutien. Et il a trouvé ce soutien auprès de Khadija. Il dit, oh Mohammed, jamais Allah ne t'abandonnerait, tu es quelqu'un de bien, tu aides ta famille, tu aides les pauvres, etc., etc. Donc, par exemple, il était apprécié dans la société avant l'islam. Ça, tout le monde le connaît. Maintenant, imaginez que Khadija, radiallahu anha, était une femme complètement effacée. La femme soumise qui dit oui, toute chose au mari. Cette femme, comme il y en a de nos jours, quand on demande une chose à sa femme, elle dit, ah, mon qui est pas, c'est mon mari, décide. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune personnalité. C'est pas bon, ça. C'est un extrême à éviter. Imaginez que Khadija radiallahu anha n'avait pas la force psychologique, la force de caractère. Lorsque le prophète lui dit qu'il lui est arrivé telle chose, elle aurait eu peur elle-même. Elle n'aurait pas pu soutenir le prophète et elle n'aurait pas pris la bonne décision. La bonne décision, c'était quoi? C'était de l'amener près de Waraqa bin Nawfal, son cousin, qui avait la science de la Torah, de l'Injil, de la Bible, de la Torah, et qui a su donner les bonnes réponses au prophète alayhi salam. Khadija radiallahu anha a eu la bonne réaction, la bonne réponse, parce que c'était une femme forte dans sa tête. Elle avait une personnalité, et le fait qu'elle soit mariée au prophète n'a pas fait qu'elle s'est effacée devant le caractère, devant le charisme de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est un premier point extrêmement, extrêmement important. Maintenant, dans les deux minutes qui nous restent, Maintenant qu'on a dit que chacun doit apporter un peu de sa personnalité, de son éducation dans la vie de couple. Maintenant, comment faire pour construire une vie commune alors que nous sommes issus de deux familles qui ont parfois des traditions différentes, voire même opposées? Comment deux personnes qui ont deux éducations différentes vont cohabiter sans qu'il y ait réellement de conflit? Alors là, il y a des règles d'or à respecter. Et c'est valable pour les nouveaux couples, pour les anciens couples, pour les anciens. La règle d'or, c'est ne jamais faire de critique directe à sa femme, ou alors de critique directe à son mari. C'est-à-dire des critiques qui ne sont ni constructives, et des critiques qui sont souvent spontanées. Il y avait un grand penseur, hein, il y a beaucoup de penseurs de nos jours, il disait que le bonheur conjugal se brise sur ce grand rocher qui la critique. Quand dans un couple, le mari n'arrête pas de, comme on dit en toile, veiller les défauts de son madame, et que le madame n'arrête pas de veiller les défauts de son mari, de chercher la petite bête, alors c'est un couple qui craquelle, et qui peut se consolider de temps en temps, mais qui un jour peut connaître, peut connaître un jour le naufrage. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les deux conjoints, et ça en général, on constate après 10 ou 15 ans de mariage, quand on devient un peu âgé, quand on a certaines manies, on devient un peu maniaque, même parfois, hein, il ne faut pas que le mari vive sur la défensive, ni que l'épouse soit sur la défensive, parce que le mariage n'est pas une compétition. On va voir qui aura le dernier mot, qui va gagner. Le mariage, c'est une fusion de deux personnalités par le biais de l'amour qui va amener une quiétude et un climat apaisant dans le foyer, tant pour le mari et la femme, que pour les enfants qui vont naître, hein, au sein de ce mariage. Également, la deuxième chose importante à retenir dans cette même idée, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les défauts de son conjoint. Alors, quand on se connaît un petit peu, quelques mois, de nos jours, c'est un peu plus, hein, eh bien, vous savez, il y a des élèves qui nous posent la question, mais ils savent comment est-ce qu'on peut se marier avec quelqu'un comme la sunnah l'exige, c'est-à-dire sans qu'on soit sorti ensemble. C'est pas possible. Les élèves, des jeunes qui disent que, on ne connaîtra pas réellement quel est le caractère de notre prochain, de notre futur. Hein, il se peut qu'il soit quelqu'un de mauvais, qui a des mauvais traits de caractère. Si je ne suis pas sorti avec lui ou je ne suis pas sorti avec elle, je ne saurai jamais pourquoi on se marie. Ah non, pas possible ça. Sinon, je ne peux pas y aller. D'accord? Alors, moi je dis à mes élèves, et c'est une réponse qui est réelle, hein, en général, lorsqu'un garçon sort avec une fille, vous pouvez être sûr à 100% que des deux côtés, ils vont faire le maximum pour montrer que les côtés positifs, que les traits de caractère positifs. Quand vous êtes à table, quand une fille, allez, on ne va pas parler de ça, on parle d'usinant, hein, mais je veux dire qu'à l'année de la société, quand une jeune fille est attablée avec son fiancé, est-ce qu'il passerait par la tête du fiancé de rôter, de se gratter les parties inférieures, ou de jurer, ou alors c'est-à-dire, les traits de caractère qui sont mauvais, en général, on les garde pour soi. Et c'est au bout de, allez, même pas combien de semaines, au bout de 2 ou 3 mois, c'est là qu'on commence à découvrir certains traits de caractère, au bout de 2 mois parfois, qu'on n'a pas vu chez ce conjoint, chez sa chérie, ou bien son gars, 1 an, 2 ans, à son avec lui, il m'a jamais connu qu'il avait tel cas. C'est-à-dire qu'après le mariage, là, on voit la réalité de la marchandise, la réalité des faits. Alors, la règle d'or là-dedans, c'est quoi? C'est de ne pas se focaliser sur les défauts de son prochain. D'accord? Si le mari est négligent, il est agressif et tout, il faut voir les bons côtés. Voir que le mari, il travaille quand même. Hein, il se lève à 8h, il retourne à 18h, alhamdulillah, il travaille, il amène le rosier à la maison. Par la grâce d'Allah, il amène de quoi manger, il ne demande de rien. D'accord? Hein, et du côté du mari, pareil, même si la femme ne cuisine pas très bien, même si la femme, bon, la maison n'est pas super propre, mais quand même, j'ai eu de bons enfants avec elle. Mes enfants sont bien élevés, ils sont polis, ils font leurs devoirs, ils ont réussi à l'école, alhamdulillah. Bon, elle ne peut pas être parfaite, tout comme le mari ne peut pas être parfait. Donc, il ne faut pas se focaliser sur les défauts du conjoint. Ça, c'est une règle d'or. Et troisième point, et ça c'est important, et ça personne ne le fait, hein, à tel point que je suis obligé de le dire, parce que je ne le fais pas, rappeler de temps en temps les qualités du conjoint. Parfois, fait d'or aussi. Il faut faire révision des règles d'or du mariage, rappeler de temps en temps les qualités du conjoint. Ça fait tellement plaisir d'entendre de la part de sa femme que tu es un bon mari. Franchement, depuis que je suis mariée avec toi, je suis heureuse. En général, quand madame dit, vous avez besoin de quelque chose. En général, ça dit, vous avez besoin d'un nouveau paire de chaussures, un nouveau sac à main. Mais bon, parfois c'est sincère aussi, d'accord? Donc, ça fait tellement plaisir d'entendre des compliments, alors que de nos jours, les compliments n'existent plus. C'est-à-dire, on vit une vie qui est tellement chronométrée qu'on finit par oublier, ça c'est des bases. C'est à la base des sentiments. Lorsqu'on drague une fille, moi je ne sais pas si on drague une fille, mais il paraît que c'est comme ça. Lorsqu'on drague une fille, ben, on ne fixe pas des objectifs. Bon, il faudra faire ça, la vie fait ça. Non, on commence par citer ses qualités. Tu es vraiment magnifique. Hein, quand je vois le soleil, la cheveux, on dirait, je ne sais pas la suite, que je ne sais pas tout ça. D'accord? Bref, etc., etc. Mais ça, il ne faut pas oublier ça. Ce n'était pas juste pour avoir la marchandise qu'on a utilisé, de le tact, de nos talents et tout. C'est-à-dire qu'il faut continuer à complimenter, le mari doit continuer à complimenter son épouse, même s'il faut exagérer un petit peu, d'accord? Et l'épouse doit également continuer à complimenter son mari. Par exemple, je le dis, la femme doit dire parfois, tu es un beau mari, tu fais tout pour ta famille, beaucoup de sacrifices. Je le dis parce que personne ne le dit de nos jours. Et le mari, tu es une bonne épouse, tu t'occupes bien de la maison, tu cuisines bien, les enfants sont bien occupés, mais ça fait plaisir parce que, pour être plus sérieux, lorsque un des deux conjoints voit que de l'autre côté, hein, il y a une reconnaissance, il y a un retour, que ses efforts ne sont pas vains. Vous savez, une femme, allez, si elle travaille, mais si elle ne travaille pas, elle passe sa journée à s'occuper de son foyer. C'est énorme, c'est le plus grand travail qu'une femme puisse faire. Et obtenir le contentement de son mari par son bien. C'est notre masna. Et donc, que le mari vienne et qu'il fait comme si que rien n'était. Que la maison soit propre ou que la maison soit sale, il ne fera aucune remarque. Lui, c'est pareil. Mais si c'est sale, il le dira. Mais si c'est propre, pour lui, c'est la norme. C'est comme si que le mari pense que la maison reste propre. C'est normal. Et que si la femme voit que son mari lui fait des compliments, ça veut dire qu'elle comprend que le mari est reconnaissant. Donc, elle va faire plus d'efforts encore, et il y aura un retour. Lui aussi va dire à son mari, et de la sorte, l'amour va augmenter. Ça, c'est extrêmement important, et c'est des choses qu'on finit par oublier. Je vous donne un cas de figure. Maintenant, on finira avec ça, Richard, d'accord? Je te promets ce soir, Richard, d'accord? On pourra mettre ce bloc d'arabe en grand mariage, Richard, d'accord? Alors, je vous donne un exemple, on finira avec ça. Quand il y a un souci dans le couple, il y a différentes manières d'aborder le problème. Il y a la manière crue, et il y a la manière beaucoup plus, avec beaucoup plus de tact et de diplomatie. Je vous donne deux cas de figure, un du côté du mari, un du côté de la femme. C'est des problèmes que tout le monde rencontre. Du côté du mari, la femme constate que son mari travaille trop. Il va le matin, il retourne le soir, et quand il rentre le soir, parfois il va à la masjid, et quand il va à la masjid, c'est pour voir ses amis, il va rester longtemps, et il rentre à 20h le soir. Et la femme se rend compte que, mis à part le week-end et les congés, ben son mari ne passe pas beaucoup de temps à la maison. C'est un tiers pour eux. C'est-à-dire qu'il a toujours une mission. N'importe quel heure, il y a toujours un événement qui a eu lieu dans la vie de ce gars. Et ce n'est pas le mari qui lui avait fait la promesse qu'on va connaître des moments heureux, non. Elle se rend compte que son mari est absent. Il se retrouve juste le soir et le matin, il s'en va déjà. Alors, la mauvaise façon d'aborder la problématique, c'est quoi? C'est que la femme dise, oh, oublie de vous travailler. Ou alors, elle dit que, ben, on ne rejoint pas avec une patrie, pourquoi pas marier avec lui? D'accord? Là, cette femme-là, est-ce qu'elle a construit quelque chose? Elle n'a pas construit. Elle a détruit la relation. Elle est en train de faire en sorte que, parfois sa réaction, le mari va se mettre là, défensif. Il va répliquer, et la femme réplique, et ainsi de suite. Et c'est une scène de ménage. Et quand ça se répète à un moment donné, on est saturé. On peut se dire que, écoute, le travail du matin au soir, c'est que je porte un forme tout le temps des choses à dire, autant le savoir ailleurs. Et malheureusement, c'est des cas de figure concrets qu'on voit de nos jours. La bonne manière d'aborder le sujet serait quoi? C'est que la femme dit à son mari, tu es un bon père de famille. Tu es un bon papa, tu es un très bon mari, alhamdoulilah, tu donnes un affront à ton travail, tu nous assures une vie correcte, confortable, vous en remarquez que je lis, hein, mais ce serait tellement bien qu'on s'assoie un peu ensemble et qu'on discute. Hein. Et tes enfants, ils t'aiment tellement, et tes enfants t'admirent, et ils attendent ça avec impatience, d'accord? Et puis, hein, ça te soulagera du stress quotidien. C'est-à-dire que là, le message est passé. Le mari a compris que la femme a besoin d'un peu de temps et que les enfants ont besoin d'un peu de temps. Le message est passé réellement et le message a été dit de manière correcte avec diplomatie. Là, cette femme, elle a construit et le message est passé et il y aura des résultats. Maintenant, dans le cas de la femme, le mari constate que, ben, par exemple, chaque fois qu'il rentre à la maison, ben, il n'y a pas grand-chose à manger. C'est souvent des surgelés, c'est des trucs comme ça, que la femme ne se casse pas trop la tête une fois la cuisine. On remarque ça de nos jours. Alors, la mauvaise façon d'aborder le sujet, c'est quoi? C'est dire que, ben, on aurait dû rester un peu plus sec au moment, faire un stage, apprendre à cuisiner. Voilà, de dire que, ben, la barrière qu'on est obligé, j'ai un peu de faim. Voilà, de dire encore, avec vous, au moins, tu ne seras jamais obèse, ça m'est pas tranquille. Là, on n'a rien fait de positif. Là, on a détruit, on a cassé cette femme, qui déjà, peut-être qu'elle n'a pas appris à cuisiner chez elle. Elle a été, je ne cache pas quelle place à l'école, elle n'a pas appris à cuisiner. Elle fait déjà un effort. Elle fait déjà un effort, et là, elle voit qu'on déconsidère le moins de ses efforts, alors qu'on n'a rien construit, on n'a rien apporté. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça que demain, va faire un bien, hors de question. Jamais de la tête, d'accord? Et la meilleure façon, hein, le bon côté des choses, comment aborder la chose de la meilleure des façons, c'est que le mari dit que tu fais beaucoup d'efforts, hein, je suis fier de toi, tu es une bonne femme, les enfants aussi sont bien occupés, ils se portent bien, la maison, mashallah, est toujours rangée. Que dis-tu d'un bon repas en famille, comme toi seul sais le faire? Je vais mettre ta veste. Un bon repas de famille, comme toi seul sais le faire, sera là un grand moment pour toute la famille. La femme a dit que déjà mon mari reconnaît que je travaille, que je cuisine, que je m'occupe des enfants, et là, il veut m'aider dans la cuisine pour que tout le monde soit ensemble, ben, elle va se dépasser, elle va... Vous comprenez, du manière générale, on va passer 50 exemples, mais quand on communique, quand il y a un problème, et le problème, il y en aura, dans tous les coups, il y a des problèmes. Ce n'est pas une question de piété, d'éducation, de culture. Il y a des soucis, il y a des conflits, parce que c'est des gens qui n'ont pas la même éducation. Mais il y a différentes manières d'aborder les choses. Il y a une manière qui va tout casser, et il y a une manière par laquelle le message va passer, Inch'Allah, et avec ça, il y aura le résultat. On terminera. Bon, on abordera directement la conclusion avec le dernier point. Il y a quelque chose d'extrêmement important. On remarque, regarde comment l'Inch'Allah est bien habillé ce soir. Avec ce court-là, son gilet kaki assorti, le bonnet doré, d'accord. Et j'ai vu des champagnes magnifiques dehors, je pense que c'est la fin, d'accord. Alors, en général, quand on se marie, ben, on est bien habillé. Hein? La première semaine de mariage, ben, on s'habille très bien, d'accord. Et au fur et à mesure, ben, ça se dégrade. Et c'est comme ça. Et j'ai même des professeurs qui m'ont dit, donc à Makka, à Madina Shalit, disent que mon épouse, elle me dit que oui, quand on sort, on met tout kafni blanc, on met tout machlach, c'est-à-dire le cap, on met tout goutra, on met le châle rouge et blanc, les bien repassés avec le tri là, les deux les bien parallèles, et tu te sens bon, tu mets du bafour et tout. Quand on t'appelle, on met tout longuier, coup de t-shirt. Mais moi, je suis quoi à moi? C'est-à-dire, c'est comme si tu te fais beau aux yeux des gens. Et retourner à la maison, ben, le gars, et c'est même dans les sociétés indiennes, hein, voilà, le boucle tcha-tcha, il débarque son longi bleu à carreaux, avec son t-shirt débardé avec le nombril, le trou au niveau du nombril, les airbags, et les tas de safran qui datent de je ne sais quelle génération. Ben, et souvent, on se rend compte que plus les années passent, moins on cherche à séduire sur le plan physique. Et ça, c'est pour faire attention à ça. Parce que, il y a des sentiments. Vous voyez, si tout le temps, vous voyez votre femme qui... votre épouse ou la femme voit son mari négliger, à un moment donné, on peut décrocher. Ça, c'est normal, ça, parce qu'on est attiré par la beauté. Et si en plus, le mari voit toutes les publicités de chemin, s'il baisse le regard, il va voir, s'il baisse le regard, on est battu, on voit les publicités. Et je vous lève le regard, bon, on ne voit pas la route aussi, donc, dans les deux cas. C'est-à-dire qu'à force de voir des jolies femmes ou d'autres choses, ben, et quand on rentre à cas où on a un ton albacore, ben, à un moment donné, on finit par se dire que, ben, elle aurait pu faire un effort, ou alors elle ne m'aime plus, ou telle. Vous comprenez? Donc, le fait de faire des efforts pour s'entretenir physiquement, c'est extrêmement important. Il y avait une histoire à l'époque de Omar ibn Khattab, on finira avec ça. Il y avait une femme qui se plaignait que son mari, donc, il se laissait aller complètement. Et ils ont été voir Omar ibn Khattab. Donc, Omar voit ce mari, les grands cheveux, les ongles sur le camp et tout. Donc, le gars, cette personne complètement négligée. Et Omar a dit à la femme qui était là, bon, laisse-nous un peu, et je te rappelle, reviens plus tard. Quand la femme revient, il y a un homme là, c'est normal, regarde pas cet homme, un homme d'une grande beauté, et le monsieur met la main, il le prend par la main. Et la femme a une réaction, dit, mais tu n'as pas honte, Abdallah, subhanallah, tu n'as pas honte devant le calife, hein, devant Omar ibn al-Khattab, tu prends ma main, il n'avait même pas reconnu que c'était son mari. Et là, Omar ibn al-Khattab a dit que, à ce monsieur, fawallahi inna hunna. Et donc, les femmes aiment qu'on se bat, qu'on se fasse beau. An tatazayyanu lahunna kama tuhibbu an yatazayyana lakum. Que les femmes aiment que le mari se fasse beau pour elles, tout comme nous, maris, on aime que la femme se barre de ses plus beaux habits, se parfume lorsqu'elle se présente. Ibn Abbas, c'était qui Ibn Abbas? Le plus grand mufassir de la Umma. Il n'y a pas une personne de la Umma qui comprenait mieux le Coran et le doigt de Passam. Et cet homme-là, ce puits de connaissance, il dit que inni uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an tatazayyana li. J'aime me faire beau pour ma femme de la même manière que j'apprécie quand ma femme se fait belle pour moi. On voit que à travers l'exemple du prophète et la vie des sahaba, nous voyons que Au-delà du côté du culte, des ibadas purs et durs, il y a l'amour qui nous a été enseigné, il y a les recettes du bonheur, et c'est vers ces exemples-là qu'on doit se retourner, et non pas analyser comment la société se rencontre, s'aime et se sépare, mais on doit vraiment retrouver les sources du bonheur par le biais de la sunna, le mode de vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et la pratique des sahaba. On a dépassé un petit peu le temps, qu'Allah nous accepte. Pardonnez-moi, qu'Allah nous ait fait de comprendre ces quelques paroles et demande à Allah Azzawajal de déverser une bénédiction spéciale dans cette union de Richard et sa future épouse, qu'il y ait beaucoup de baraka. De jour en jour, l'amour augmente, de jour en jour, la baraka, la bénédiction augmente, et de jour en jour, le iman, le rapprochement, le lien avec Allah Azzawajal augmente, et qu'à l'issue de ce mariage, il y a des enfants, Inch'Allah, pieux, qui seront la fraîcheur de leurs yeux et qui seront des porte-drapeaux de l'étendard de l'islam.